Direction le diocèse de Tarbes et Lourdes pour évoquer l'agenda et l'actualité du diocèse. Rebonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Les visites pastorales de Monseigneur Mika se poursuivent dans le diocèse de Tarbes et Lourdes.
Oui, après 4 jours dans les ensembles paroissiaux de Maubourguet, Rivière-Basse et Rabastens de Bigorre, Monseigneur Mika poursuit donc ses visites dans les jours à venir. Il sera dès cette semaine, à partir de jeudi jusqu'à dimanche, dans l'ensemble paroissial de Séméac et Oreillan. Alors au cœur de cette 6e visite de terrain, notre évêque se rendra notamment à l'ESAT de Séméac. Il rencontrera aussi, comme à chaque fois, les élus, les habitants engagés dans la vie de la cité et puis, bien sûr, les chrétiens investis dans la vie paroissiale. Alors, plusieurs temps forts sont à noter pour cette visite, notamment une rencontre avec les jeunes et une soirée louange vendredi 8 mars à 20h30 en l'église de Séméac. La bénédiction de la rénovation de la chapelle Don Bosco dans l'église de Séméac, ce sera samedi 9 mars. Et puis, dimanche 10 mars, l'ensemble paroissial de Séméac et Oreillan changera de nom. L'évêque bénira le nouveau nom de cet ensemble paroissial qui s'appellera dorénavant l'ensemble paroissial de Saint-Joseph Travailleur. Voilà pour cette nouvelle visite pastorale. Et puis très vite après, on aura l'occasion d'en reparler, le 14 mars, l'évêque se rendra cette fois-ci pour une visite d'une journée, une visite courte dans le centre-ville de Tarbes. Ce sera dans l'ensemble paroissial Saint-Jean, Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette. Vous voyez que le rythme est bien soutenu.
On poursuit cet agenda avec jeudi une rencontre d'un groupe interreligieux.
Oui, c'est le groupe interreligieux du diocèse, le groupe interreligieux chrétien-musulman qui se rassemble régulièrement à Tarbes. Et le prochain rendez-vous, c'est ce jeudi 7 mars à 16h au presbytère de la GESP à Tarbes.
On poursuit avec une proposition de la mi-carême et ça va se passer sur le plateau de Lannemezan.
Oui, où l'ensemble paroissial, les chrétiens de l'ensemble paroissial nous invitent à une petite pause de la mi-carême en partageant un repas fraternel avec quelques patients de l'hôpital de Lannemezan. Ça se passera à la salle des Quatre Vallées, c'est la maison paroissiale de Lannemezan. Ce sera ce dimanche 10 mars après la messe, une messe qui est célébrée, donc, je le rappelle, à 10h30 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Lannemezan. Et la salle des Quatre Vallées est juste en face de l'église. Donc la messe, le repas partagé et vous passez une belle mi-carême.
Voilà, et on poursuit avec la bannière de Bigorre pour le carême du cinéma.
Oui, alors voilà, c'est le rendez-vous de carême qui nous fait sourire parce que c'est une proposition originale. Je le rappelle, le secteur paroissial du Haut-Adour propose de vivre le carême d'une autre manière en venant regarder un film chaque mercredi de carême à partir de 20h au numéro 13 rue Pasteur à Bannière de Bigorre. Alors évidemment, les films proposés sont des films chrétiens qui nous aide à réfléchir sur notre propre foi, à échanger aussi avec les autres personnes qui sont là pour regarder le film. Une libre participation est proposée. La recette permet d'une part de payer les droits de distribution du film et puis d'autre part d'aider l'œuvre SOS Chrétien d'Orient. Chaque année, c'est une nouvelle œuvre qui est soutenue. Cette année, c'est l'œuvre SOS Chrétien d'Orient. Alors le prochain rendez-vous, c'est demain, le 6 mars, avec ce film Reste un peu. Rendez-vous à 20h pour la séance de ciné.
Vraiment, les propositions, elles sont multiples dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, parce qu'après le cinéma, eh bien, on va évoquer une exposition qui va se dérouler du côté de Vic-en-Bigorre.
Et ça a démarré hier, le 4 mars, et ça se poursuit jusqu'au 25 mars. L'église de Vic-en-Bigorre accueille l'exposition conçue par le bienheureux Carlo Acutis sur les miracles eucharistiques. C'est une exposition qui comporte 40 panneaux de textes, de photos, de dessins, et qui présente les miracles eucharistiques qui sont reconnus par l'église. Cette exposition est visible dans l'église de Vic-en-Bigorre tous les jours. Voilà, donc toute la journée, cette église est ouverte et vous pouvez profiter de cette exposition. C'est jusqu'au 25 mars.
Et enfin, on termine cet agenda avec cette école de prière familiale. Ça se passe à Lourdes.
Oui, alors c'est une nouveauté proposée par le service diocésain de la catéchèse. Vous savez que l'année 2024 est une année dédiée à la prière. C'est l'invitation du pape François en tous les cas. Et le service diocésain de la catéchèse a eu cette idée lumineuse de proposer le samedi 23 mars une école de prière familiale au sanctuaire de Lourdes. Alors le principe, ça n'est pas de déposer vos enfants et de revenir les chercher le soir. Le principe, c'est de participer avec vos enfants ou vos petits-enfants, ou tous ensemble d'ailleurs, à cette journée de prière familiale. Ce sera l'occasion peut-être d'apprendre ou de réapprendre à prier ensemble, et puis d'échanger avec d'autres familles qui vivent ou qui essaient de vivre la prière en famille. C'est aussi un moment privilégié juste à la veille des rameaux et juste avant d'entrer dans la semaine sainte, ce 23 mars. Donc rendez-vous à 10h 10h au premier étage du centre information au sanctuaire de Lourdes. Et la fin de la journée, ce sera à 16h15 au même lieu. C'est une journée gratuite, mais il faut s'inscrire. Et donc le formulaire d'inscription est accessible directement via le site du diocèse catholique65.fr dans la rubrique Agenda, école de prière familiale.
Voilà, et dans cette rubrique, on pourrait également retrouver d'autres événements à noter dans les prochains jours, et on le dit chaque semaine. Mais si vous êtes à l'origine d'une initiative et si vous souhaitez communiquer sur notre antenne ou plus largement sur les outils de communication du diocèse, c'est possible, hein, Rose, de vous contacter.
C'est tout à fait possible, c'est même fortement recommandé, bien sûr. Il suffit d'envoyer un mail à communication@catholique65.fr, communication@catholique65.fr. Vous transmettez votre information et nous la partageons via Radio Présence et via tous les autres outils de communication du diocèse.
On a commencé cet agenda avec la visite pastorale de Monseigneur Mika dans les jours à venir à Séméac au Rayon. Et maintenant, on va revenir sur une visite qu'il a effectuée il y a quelques jours à Maubourguin. On le disait, ces visites pastorales, c'est pour vous l'occasion de découvrir le territoire des Hautes-Pyrénées.
Tout à fait, c'est l'occasion également de donner la parole aux élus locaux, aux acteurs socio-économiques, aux associations. Alors, je suis allée toquer à la mairie de Maubourguin où le maire Jean Nadal m'a reçu avec l'un de ses conseillers, Sylvain Dousseau. Je vous propose d'écouter cet entretien.
Bonjour, écoutez, tout d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Maubourguin, puisque nous sommes toujours ravis d'accueillir des visiteurs. Je mets visiteurs parce que Maubourguin est une ville que moi je traite, que je qualifie de charmante, mais je ne suis pas objectif. Je suis né sous les platanes. Donc je ne peux pas être objectif. Je dis c'est le plus beau village du monde. On le dit ailleurs aussi, paraît-il, mais la vérité est à Maubourguin.
Oui, ici au moins c'est vrai.
Au moins c'est vrai.
Voilà. Et c'est vrai que les platanes font partie de la carte postale de Maubourguin. Voilà, ces fameux platanes autour de cette allée centrale du village. Alors, on va avec vous découvrir cette ville qui est, vous le dites, monsieur le maire, la plus belle non seulement de Bigorre, mais certainement de France et peut-être du monde. Alors, on va se plonger dans l'histoire. Je crois que c'est votre spécialité, Sylvain Dousseau. Vous êtes conseiller municipal depuis 50 ans ou presque 50 ans. L'histoire de Maubourguin n'a pas de secret pour vous. Est-ce que pour les auditeurs de Radio Présence, ceux qui sont bigourdans, ceux qui sont à l'autre bout de la région Occitanie, est-ce que vous pouvez nous faire rêver en nous plongeant dans l'histoire de cette ville ?
Oui, Maubourguin, c'est une ville qui a 50 siècles, si on remonte à ses origines les plus lointaines. Elle est située au confluent de la Dour et de l'Échesse. C'est un site privilégié pour organiser une vie en commune. Donc on trouve des traces depuis le néolithique, ensuite durant la protohistoire, à l'époque gallo-romaine se trouve un temple à l'emplacement de l'église, une première église paléochrétienne se substituera au temple, suivie d'une église carolingienne, et les moines bénédictins vont construire la troisième église. Tout cela s'appelle le monastère de Saint-Martin de Selles. Ces moines sont venus de l'abbaye d'Alette en Languedoc, autour de l'an 1000. Et jusqu'en 1824, l'église de Maubourguin ne dépend pas du diocèse de Tarbes. Maubourguin dépend du diocèse d'Alette, en Languedoc, près de Limoux. Le diocèse, après la Révolution française, c'est le diocèse de Tarbes, prendra le relais en 1823 ou 1824. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'église de Maubourguin, d'abord dédiée à Saint-Martin, et aujourd'hui à Notre-Dame, dépendra du diocèse de Tarbes.
Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu aussi sur l'évolution du village ? Là, vous nous avez expliqué en quelques minutes l'évolution à travers les siècles. Qu'en est-il de l'évolution de la population ?
Alors, la population a suivi, bien sûr, et l'église est un bon marqueur de l'évolution de la population. Ouais. C'est la première basilique paléochrétienne, fait 24 mètres de long sur 8 de large. La seconde, à l'époque carolingienne, elle va faire plus de 30 mètres. Et la troisième église, qui appartient au monastère bénédictin, va faire près de 40 mètres de long. Donc elle est une image de l'évolution de la population. Mais ça serait déjà, si on ne parlait que du centre-ville, ça serait déjà se tromper, puisque sur le village, sur le territoire communal, qui couvre 2204 hectares, 22 km², se trouvent au Moyen-Âge 7 églises et plusieurs villages médiévaux qui sont nés de villas gallo-romaines. Donc vous voyez que la population s'étend sur tout le territoire communal et non pas à l'intérieur de la ville.
Donc on est allé jusqu'à combien d'habitants ?
Alors on est arrivé près de 3000 habitants au milieu du 19e siècle.
Tout ça, Sylvain Dousseau, vous le savez parce que vous êtes né à Maubourguet, vous vivez à Maubourguet depuis toujours, mais aussi parce que vous êtes vous-même passionné d'histoire et d'archéologie.
Oui, bien sûr, parce que l'archéologie, pour les historiens, c'est le texte permet d'arriver jusqu'au Moyen-Âge. Mais pour là, un archéologue, il n'y a pas de limite. On a trouvé des vestiges néandertaliens, des vestiges de l'homme néandertal, c'est-à-dire 300 000, 400 000 ans sur les coteaux.
Alors je crois que, alors aujourd'hui évidemment on ne peut pas faire une émission consacrée uniquement à l'archéologie à Maubourguet, mais en tous les cas ce sera l'occasion pour Radio Présence de revenir, et notamment de revenir pour poser le studio du côté de l'Office du Tourisme, puisque je crois qu'il y a un musée là qui nous raconte tout ce que vous nous dites là.
Voilà, c'est mon troisième musée. C'est le plus beau musée du département, bien sûr. Ce qu'il y a de certain, il est unique, puisqu'il n'y en a qu'un de ce type dans le département. Bon, déjà, et tout ça, il représente une vie de recherche, 60 ans à peu près de recherche sur le territoire.
Que vous-même, vous avez effectué.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, monsieur le maire, ce passé de Maubourguet, ce passé, il a un intérêt aussi s'il nous permet de lire le présent. Alors aujourd'hui, Maubourguet, qu'est-ce que c'est ? À part être la plus belle ville du monde, comment et pourquoi est-ce la plus belle ville ?
Parce que j'y suis né et parce que j'y vis. Et parce que tous les gens qui vivent à Maubourguet trouvent Maubourguet extraordinaire. Non, Maubourguet, si vous voulez, était une ville comme beaucoup d'autres vivaient. Je ne vais pas dire d'expédient, mais on avait un petit développement avec les gens qui dirigeaient les affaires de la commune, étaient des gens de bonne volonté, mais qui manquaient, je vais dire, d'une grande expérience. Or, nous avons eu la chance, en 1989, d'avoir Jean Glavany qui est arrivé, qui s'est installé à Maubourguet et qui est devenu maire. Donc, il avait une connaissance assez extraordinaire de toute l'activité économique, une existence générale. Et il nous a appris à travailler et il a permis à Maubourguet de se développer. Alors, si vous êtes arrivé par Tarbes, vous avez dû voir une zone d'activité. C'est grâce à lui. Parce qu'à l'origine, les Maubourguetois, dont je faisais partie, on était un peu timides et timorés pour entreprendre des grands projets. On se disait, oh non, ça, c'est pas possible. C'est trop, trop important pour Maubourguet. On va pas y arriver. Il nous a montré que si on a la volonté, Et si on fait attention, on peut faire de grandes choses, même en milieu rural. C'est ce qui a été fait.
Donc c'est-à-dire que d'une vie de bourg où on n'ose pas trop s'étendre et faire plus, eh bien, vous avez eu l'audace de...
On nous a donné l'audace.
Donc de donner aussi une place à des entreprises.
Alors, maintenant, notre zone d'activité, est pratiquement remplie, complète. Il y a une place ou deux, mais c'est en cours de réalisation. Alors, il y a 30 ans, qui aurait dit qu'il y aurait un McDonald's à Maubourguet ? Bon, nous avons un McDonald's à Maubourguet. Bon, c'est un signe. Alors, ça correspond, bien entendu. Les gens ne viennent pas parce qu'on est les plus beaux, mais parce qu'il y a un intérêt économique pour eux. On a un bon développement économique. La compétence est passée à la communauté des communes, mais il y a une dynamique sur Maubourguet qui existe et qui est intéressante. Et que nous essayons de valoriser.
Vous avez réussi à garder un équilibre entre une vie économique quand même dans ce bourg qui a vraiment un cachet et puis qui est aussi l'histoire, et puis l'extérieur autour du bourg avec ce développement économique.
Oui, alors même à l'intérieur du bourg, il y a des choses que l'on ne voit pas. Je citerai par exemple la mielerie Balofluren. C'est une entreprise qui est centre-ville, à 5 minutes à pied d'ici, qui doit avoir 50 ou 60 employés. Et qui travaillent sur le miel, les produits, ils appellent ça la pharmacie par le miel. Ça porte un nom. La miélothérapie, vous voyez un peu. Et donc, il y a tout un tas d'activités qui se développent comme ça. On a une autre entreprise qui n'est pas loin non plus, qui est sur l'entrée, mais qui n'est pas sur la zone, qui est la numéro 1 française sur tout ce qui en est inclusion. Manger de la matière plastique, ce n'est pas du plastique. C'est tout un tas d'opportunités, de rencontres, et puis les uns appellent les autres.
Ça veut dire aussi un mélange de propositions et d'offres.
Tout à fait. Une des dernières entreprises qui est arrivée à Montbourguet, c'est une entreprise qui fait comme de la pâte à tartiner, comme le Nutella, mais ce n'est pas du Nutella, mais parce qu'elle travaillait avec le miel de Balofuret, justement. Alors elle a essayé de se rapprocher de la source d'approvisionnement et elle s'est installée, on a fait des locaux. Tout se mélange bien.
Voilà. Alors quand on parle d'installation d'entreprise, on imagine aussitôt donc l'arrivée de famille et aussi des propositions pour la enfance, pour la petite enfance, pour la jeunesse. Qu'en est-il de ce côté-là?
Là, c'est un volet où nous sommes très fiers. Parce que dès 1989 et l'arrivée de Jean Glavany, qui était une personne très impliquée dans l'école, nous avons fait une réforme des rythmes scolaires. Et nous sommes passés, si vous voulez, on ne travaillait que jusqu'à 15h30 à l'après-midi. Ah oui, j'avais même écrit à l'époque Monseigneur, parce qu'il fallait permuter des horaires. Et monsieur le curé d'ici m'avait dit, et l'évêque m'avait répondu favorablement, parce que, bien entendu, on faisait classe le mercredi matin. Donc il n'y avait plus catéchisme. Donc, alors, moi, je me souviendrai toujours de ce que m'avait dit monsieur l'abbé, c'était l'abbé Serein, je pense, Sylvain. C'est l'abbé Serein qui m'avait dit, quand on est chrétien, le catéchisme, que ce soit le mercredi ou le samedi, c'est pareil. Bon, c'est qu'il avait raison, mais les habitudes, vous savez ce que c'est. Le catéchisme, c'était le jeudi matin. Bon, voyez, et donc, on a développé tout un tas d'aménagements pour les enfants, parce qu'on finissait l'école à 15h30, mais il n'était pas question de laisser les enfants dans la rue, parce qu'il y a les parents de travail, donc on a mis en place un centre de loisirs. Et on a toute une politique envers la jeunesse, avec le centre loisirs. On a développé pour les ados, maintenant une association qui s'appelle les Bouscarettes. Et ça continue.
Alors, ça a été Qu'est-ce que c'est les Bouscarettes?
Les Bouscarettes, c'est une association. Le centre de loisirs prenait en compte les gamins jusqu'à 12 ans. Ouais. Mais après 12 ans, il n'y avait plus rien. Donc on a monté une structure qui s'appelle les Bouscarettes, du nom du stade qui s'appelle le Bouscaret. On a monté une structure qui prend en charge ces gamins. Alors on leur propose des activités, des stages, enfin, il y a tout un tas de trucs. Et on en arrive même maintenant à avoir, pendant 2 ans de plus, certains gamins qui sont au lycée et qui continuent à... Et le fin du fin, c'est que la personne qui est maintenant responsable du service des sports à Montbourguet, c'est une gamine qui a commencé par le centre loisirs à Montbourguet. Bon. Rester là. On est assez fiers. On est souvent cité un exemple parce qu'on a des partenariats avec la CAF, la MSA, depuis de longues dates.
Alors aujourd'hui, à Montbourguet, il y a combien d'habitants?
Alors aujourd'hui, au dernier recensement, 2384, tiens, allez, ou 5. Un problème. Excusez-moi, je ne sais plus parce que là, on a eu une série de décès. On a eu une série de décès ces derniers temps avec des. 3 ou 4. Le nombre juste, c'est précis, c'est difficile. Ouais. Mais bon, 2380, on n'est pas loin.
2380, avec donc ce mélange d'offres, de propositions et de générations, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on entend. Alors, on parle des jeunes, des familles, pour les personnes plus âgées. Parfois, on entend que c'est très dur pour des personnes âgées de rester dans des petites villes, dans des villages ou dans des petites villes, parce qu'il faut se rapprocher des grandes villes, quitte à s'éloigner de ce qu'on a toujours vécu et du confort réconfortant, peut-être un peu nostalgique, mais réconfortant de la vie qu'on a toujours connue. Comment vous faites pour que les gens plus âgés restent ici et puissent continuer à vivre ici, même s'ils ont besoin de soins, même s'ils ont besoin d'avoir accès à la ville facilement?
Alors, l'accès à la ville n'est pas une fatalité. On peut très bien s'en passer. Nous avons pu préserver au sein de la commune des petits commerces. Nous avons des petits commerces. Ils n'ont pas tous fermé. Alors, bien entendu, on a le Super U, le grand supermarché sur la zone. Mais là, il faut une voiture si vous voulez y aller. Bon. Mais on a des petits commerces. On a ce qu'on appelle le Faubourg et le centre-ville. Bon, c'est deux endroits où on a une petite épicerie partout. Il y a des boulangeries, il y a des pâtisseries, il y a des boucheries. Donc, les personnes âgées trouvent leur compte. On a tous les services. On a des médecins, des dentistes, des kinés. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Donc, qui fait que les gens viennent. Et on voit... Il y a une certaine tendance maintenant où des jeunes qui étaient partis habiter dans les villages voisins, parce que, bien entendu, les charges étaient moins élevées, reviennent vers Montbourguet, parce que si on a oublié la baguette de pain, il faut prendre la voiture. Et quand on a un certain âge, ce n'est pas forcément agréable ou intéressant de prendre la voiture pour aller acheter la baguette. Donc on réussit encore à maintenir cette population. La population de Maubourguet en elle-même est vieillissante. Justement parce qu'on a, je veux dire, le confort pour les gens de Maubourguet. Et bien qu'on ait pas mal d'activités, qui recrutent pas mal de gens sur place, le nombre d'emplois est limité quand même. Limité. Donc les jeunes sont obligés, font leurs études et puis bon, ils partent.
Et il y a des personnes qui vivent ici et qui travaillent aussi, par exemple à Tarbes. On a une trentaine de minutes de Tarbes.
Tarbes et Pau, nous avons aussi. Il y en avait davantage autrefois du temps de l'Arsenal. L'Arsenal était un gros foyer. Bon, il y a moins... Oui.
Pardon.
On a 1000 employés sur la zone industrielle qui n'habitent pas tous dans la ville. Donc c'est très important, on a une résidence senior, on a un EHPAD. Nous, on parle des personnes âgées, on va jusqu'au bout.
Vous allez jusqu'au bout, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Le désert médical, ici, vous ne connaissez, c'est ça qui est incroyable, il y a tous les jours on entend parler du désert médical.
Le désert médical, c'est on a fait croire aux élus des communes comme Maubourguet que les médecins, les jeunes médecins ne voulaient pas venir en milieu rural. Ce n'est pas du tout ça. Les jeunes médecins ne veulent pas travailler seuls, donc ils veulent travailler en groupe. Alors moi, j'ai eu la chance d'apprendre, parce que je faisais un peu de musique en amateur, et il trouve que mon voisin de pupitre était un médecin, et il m'a expliqué tout ça. Il recevait des jeunes internes en formation, et maintenant, les médecins de Maubourguet, c'est un jeune qui est le docteur Tressac, il reçoit des jeunes en formation, des internes, et il les prend chez lui en tant que stagiaire. Donc, on s'est rendu compte que l'exercice à la médecine n'était plus le même qu'autrefois. Autrefois, c'était un médecin de famille, corvéable et taillable, 24 heures sur 24. Maintenant, les médecins, les jeunes médecins, aspirent à une vie normale. C'est-à-dire, quand je dis vie normale, c'est travailler 8 heures par jour, arriver le matin, partir manger à midi et finir le soir à des heures raisonnables. Et ils ne veulent plus s'embêter avec tout ce qui est installation, compteur électrique. Ils arrivent, ils posent la plaque, ils travaillent. Alors, la communauté des communes qui a pris la compétence santé fait en sorte, bon, elle a acheté le groupe médical de Maubourguet, fait en sorte que le médecin arrive, il loue son bloc et il a également sa secrétaire avec et tout. Il paie le prix que ça coûte, pas plus, pas moins. Et donc on a des médecins qui sont venus. Et après, ils ne sont pas arrivés tout seuls. On a été les chercher.
Alors, comment on fait pour aller chercher des médecins et comment on fait pour les convaincre de venir s'installer ici?
Pour aller les chercher, eh bien, vous allez à Toulouse, vous allez à Lyon, parce qu'il y a, un congrès des jeunes internes à Lyon. Notre président de la communauté des communes est allé à Lyon, il a passé 3 ou 4 jours, il a contacté 60 jeunes médecins, des internes. Les 60 ne viendront pas à Maubourguet, je vous rassure. Hein. Mais on a une touche ou deux. Et après, on a proposé que les médecins s'installent en libéral ou en salarié. On a ce qu'on appelle un centre de santé. Alors le centre de santé, ce n'est pas une maison, c'est une structure qui permet de salarier des médecins. Et il y a des jeunes médecins qui veulent être salariés maintenant.
Et ça, ça marche.
Et ça marche, oui. Et nous en avons, oui, ça fonctionne bien.
Voilà, nous sommes à la mairie de Maubourguet, ça se trouve dans les Hautes-Pyrénées, au nord de Tarbes. Nous sommes avec Anne-Rose Jankovic, qui est à la mairie à l'occasion de la visite pastorale de Mgr Jean-Marc Mika. Mgr Mika qui était il y a quelques jours sur ce secteur.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Alors, Jean Nadal, Sylvain Dousseau, à Maubourguet, il y a beaucoup de particularités. Là, on vient de parler de l'actualité, de la vie aujourd'hui à Maubourguet. Mais on l'a compris au tout début de cette interview, il y a aussi le passé. Quand on se promène à Maubourguet, on est à la fois transporté dans le passé et puis on voit bien sur l'église romane qui est d'ailleurs au monument historique, qui est inscrite au monument historique. Et puis il y a les chemins de Saint-Jacques, ça c'est un sacré patrimoine. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, le passage des chemins de Saint-Jacques ici?
Mais les chemins de Saint-Jacques reprennent les grandes voies romaines. C'est la voie d'Auch vers l'Escar et vers l'Espagne. Donc depuis le Xe siècle à peu près, les pèlerins de Saint-Jacques traversent Maubourguet. Et ils avaient l'hospitalité ici à Maubourguet par deux groupes religieux. Le commandeur du Saint-Esprit, qui se trouvait au Marcadieu avant de traverser les Chesses. Également l'ordre de Malte, dans le quartier du Faubourg, avec moulin et église dédiée à Saint-Barthélemy. Voilà ce qu'ils trouvaient à Maubourguet pour, comme ville-étape.
Aujourd'hui, les pèlerins, ils sont nombreux à passer. Donc là, on est sur le GR 101, c'est ça?
Oui. L'Office de tourisme a enregistré l'année dernière 175 pèlerins.
Qui font halte ici.
Voilà. C'est, ce chiffre-là, ce sont les pèlerins qui font halte à Maubourguet et qui occupent un chalet qu'on met à leur disposition pour une somme modique. Parce qu'il peut y avoir des pèlerins qui vont dans des chambres d'hôtes ou ailleurs, ou qui plantent la tente. Oui. Ça, c'est... Et alors, c'était l'année du Covid, il n'y a pas eu beaucoup de monde, et c'est reparti de plus belle depuis l'an dernier. Voilà. Donc, on a beaucoup de passages. On en a même qui tombent de... On a même des pèlerins qui tombent dans le caniveau. C'est une anecdote, mais c'est une anecdote entre nous, on rigole. On a été au tribunal administratif pour ça.
Ah bon, alors on a le droit de raconter ça ou pas?
Oui et non. Oui, on peut. Il y a une passerelle qui... Une dame qui faisait le pèlerinage a chuté à la passerelle et est tombée au lieu de passer à guet comme faisaient autrefois les pèlerins, on a mis une passerelle qui n'était pas bien entendu conforme à toutes les règles de l'art. Et comme elle s'est blessée, elle a porté plainte contre la commune.
Ah, bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, on parle d'eau. Alors, vous avez dit plusieurs fois, l'un et l'autre, qu'ici à Maubourguet, il y a deux cours d'eau. C'est la confluence de l'Échaise et puis de l'Adour. Quelle importance ça a, ça, en fait?
Alors...
Comment ça façonne une ville?
Alors, ça façonne une ville parce que l'eau est une richesse. Et l'agriculture de tout temps, Sylvain me reprendra si je me trompe, de tout temps on a utilisé l'eau pour irriguer la plaine. Et on avait tout un lacis de canaux qui permettaient d'irriguer la plaine, parce qu'autrefois surtout il y avait de l'élevage en particulier, donc c'était pour faire ce qu'on appelait le regain, c'est-à-dire on faisait les foins en juin, on arrosait et ça repoussait et on faisait le regain. Bon, après ça a été repris bien entendu pour le maïs. Donc la présence de l'eau est un facteur, je dirais, développant de l'agriculture chez nous. Parce que dans les coteaux, on fait du vin, et nous, on a l'eau.
Alors l'eau, c'est aussi un attrait pour les touristes?
Oui, également. Oui, voilà, il me fait signe pour la pêche, parce qu'il sait que je suis pêcheur.
Oui, je le voyais derrière moi faire des grands signes, en fait, il pêche.
Ça, c'est pour la pêche, oui. Non, on a un parcours intéressant pour la pêche, puisque au niveau halieutique, nous sommes à la limite des deux zones, ce qu'on appelle la première catégorie et la deuxième catégorie. Donc, première catégorie, c'est des salmonidés qui sont en grand nombre, et des cyprinidés, c'est-à-dire carpes, brochets, tout ça. Mais comme nous, on est à la jointure des deux, eh bien, on a de tout partout.
Vous avez vraiment beaucoup de chance ici. Monsieur le maire, je disais un peu en plaisantant au début de cet entretien que ici, on est... presque dans le Gers. C'est vrai que les paysages ont un petit air gersois. Ça vous plaît ou pas?
On n'est pas fâché contre les gersois. On n'aime pas les Bernais, nous, ici. Non.
Ils nous entendent aussi, les Bernais.
Alors, on aime les Bernais aussi. Non. Maubourguet est à 5 km du Gers, d'un côté, et du Béarn à 6 km. Donc, on est à la limite. Et bon, on a les Landes pas loin. On est vraiment tout à fait au bout de ce qu'on appelle, quand on regarde la carte du département de Pyrénées, on dirait un jambon de Bayonne.
Oui, mais ça nous parle.
Ça nous parle. Et donc, on est tout à fait en haut et on est à côté dès que vous partez. Voilà.
Donc, pour vous, en tant que maire, c'est une chance ou ça représente un défi, des contraintes?
Alors, ce n'est ni une chance, ni un défi, ni des contraintes. Nous travaillons ensemble. Nous avons un pays qui s'appelle le pays du Val d'Adour, où il y a des communes du Gers, des communes des PA. Donc, ça n'a aucun problème, on travaille.
Alors, une dernière question que je vais poser à l'un et à l'autre.
D'abord à l'autre,
puis ensuite à l'un. Bon, il y a beaucoup d'humour ici. En fait, j'en ai deux questions, ouais, en plus. Alors, la première question, c'est que dans cette mairie de Maubourguet, j'ai remarqué qu'il y a de très nombreuses œuvres d'art, des tableaux, des sculptures. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, ça c'est moi qui réponds. Alors, si vous voulez, quand Jean Glavaligne est arrivé, maire de Maubourguet, il s'est rendu compte que du peu de dynamisme qu'il y avait, en particulier même sur les fêtes locales. On avait les fêtes locales banal, quoi. Et il a revitalisé les fêtes en créant une association que l'on appelle les Rencontres de Maubourguet. Et le principe de base, c'est le sport est partie intégrante de la culture. Et on a invité des sportifs et des artistes à venir se rencontrer à Maubourguet à l'occasion des fêtes. Alors quand je dis artistes et sportifs, c'est des artistes et sportifs de haut rang. C'est-à-dire qu'on a eu des artistes nationaux et des sportifs à l'échelle nationale. On a moins de sportifs actuellement parce qu'ils ont davantage de contraintes par le professionnalisme, mais on a toujours les peintres. Et le but du jeu, c'est de les réunir le vendredi soir sous un chapiteau et de les faire peindre sur un thème donné. Donc les peintres peignent, les artistes peignent, les sportifs, on les fait peindre aussi.
Ah oui, qu'est-ce que ça donne ?
Ils sont aidés par les peintres.
Mais ça donne... Mais c'est une idée très originale.
Alors, les peintres qui viennent ne sont pas payés, ils sont défrayés, le frais d'hébergement et tout, on les héberge. Bon. Et ils font don de l'œuvre créée à l'association pour une vente aux enchères. Donc, lors de la vente aux enchères du dimanche après-midi, la commune, bien entendu, achète quelques œuvres. Mais nous avons également, vous voyez, ce tableau a été offert par un peintre pour la commune.
Ce tableau donc, que vous avez dans votre bureau.
Oui, je l'ai mis dans mon bureau, voilà, parce que quand on sortira, il y a un grand tableau sur le mur de l'escalier qui a été également offert par un peintre. Alors on a comme ça des tableaux qui sont offerts, d'autres qui sont achetés. Et à Maubourguet, il y a une facette que l'on ne connaissait pas avant et maintenant. Beaucoup de gens se sont mis à la peinture par le biais d'associations. Et on aime bien, alors je dis peinture, mais aussi des sculpteurs qui viennent. Bon, je vous ferai faire un petit tour après pour tout vous montrer si vous voulez. Voilà, on est très, très friands de ce côté artistique parce que, bon, on a beau dire ce qu'on veut, l'art est une façon de s'exprimer et qui permet la liberté.
Alors, le plus beau des tableaux, c'est notre mosaïque gallo-romaine.
Voilà. Alors, cette mosaïque qui fait une dimension incroyable.
20 mètres carrés, 4 mètres 60 par 4 mètres 30.
Et que l'on peut voir au fameux musée d'archéologie.
Bien sûr. Voilà, avec ces murs qui l'entourent. On a tout reconstitué à l'intérieur du musée.
Alors, vous voyez, juste avant notre rendez-vous en cette mairie de Maubourguet, moi, si on me demandait, Maubourguet, c'est quoi ? J'aurais dit, c'est une très jolie petite ville, comme ADN, plutôt l'agriculture. Puis on découvre que, alors, il y a peut-être l'agriculture aussi, mais qu'il y a la culture, qu'il y a l'archéologie. Je vous la pose cette question à vous, cette dernière question. Pour vous, l'ADN de Maubourguet, c'est quoi ? Si on vous disait, qu'est-ce que c'est que cette ville ? Qu'est-ce qui ressort ? Quelles sont les tripes de cette ville ?
Les tripes de la ville, il y a... Je parlais à manger de la culture locale. Alors la culture locale, c'est vague, parce qu'on dit culture, ça englobe tout. Alors culture locale, c'est bien entendu tout le passé. Parce que si on avance sans se retourner sur son passé, on avance dans l'obscurité. C'est bien dit, ça. Hein c'est... Mais c'est pas de moi. Hein non. Pardon. Donc, on a cette culture. Mais nous avons aussi toute la culture locale qui est aussi le rugby. Parce que, bon, c'était incontournable. Donc, c'est un lien social terrible, le rugby à Maubourguet. C'est le rugby, c'est les rencontres de Maubourguet. C'est un art de vivre. Voilà. On avait fait, vous voyez, vous avez le Maubourguet, la vie comme un art.
Ça, c'est le magazine municipal, le bulletin municipal.
À voir, à vivre, à croquer. Ça vous résume Maubourguet.
Ben voilà, l'ADN, il est là dans ce bulletin municipal. Oui, Maubourguet, la vie comme un art, à voir, à vivre, à croquer.
Voilà, ça avait été trouvé par une agence com et qui correspond tout à fait à notre état d'esprit.
Voilà. Alors, Sylvain Dousseau, pour vous aussi, cette même question, peut-être que vous allez me donner la même réponse, mais peut-être pas.
C'est certain qu'on a parlé de l'eau tout à l'heure, c'est un atout considérable. Puisque déjà dans l'Antiquité, c'est l'empereur Auguste qui a annexé la Bigorre au peuple des Tarbélies de Dax pour installer les vétérans de l'armée romaine dans toute la vallée de la Dourse, 62 kilomètres. C'est pour ça que nous avons énormément de villas gallo-romaines, en particulier la fameuse mosaïque que nous avons découverte à Maubourguet.
Voilà, alors une des nombreuses choses à découvrir à Maubourguet, c'est ce musée d'archéologie qui se trouve dans l'office du tourisme, donc qui est sous les allées de platanes de Maubourguet. Donc, eh bien, une invitation à venir à Maubourguet, à venir découvrir en toute saison. On peut venir voir, vivre et croquer Maubourguet. Voilà, merci.
J'oublie de lire, on y mange bien aussi à Maubourguet.
On y mange bien en plus. Bon, merci beaucoup Monsieur le maire Jean Nadal et Sylvain Dousseau pour votre accueil, pour ces explications sympathiques, joyeuses, qui donnent vraiment envie de venir découvrir votre ville. Un grand merci à vous. Et puis merci aussi pour l'accueil que vous réservez à Monseigneur Mika.
Il n'y a aucun souci, nous aimons avoir des visites.
Merci beaucoup Monsieur le maire pour votre accueil et pour vos réponses. Et merci également à vous Sylvain Dousseau.
Avec grand plaisir et revenez quand vous voulez pour visiter notre musée.